Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à la BPI et au Centre Pompidou ce soir pour la conférence olfactive et interactive proposée par Johan Servi, spécialiste de l'histoire de la parfumerie moderne et critique de parfums. Il est le fondateur avec Patrice Revillard et Marie Schnirer du laboratoire Maestrom, créateur de parfums. Au cours de cette conférence, vous allez pouvoir humer, sentir, respirer des parfums emblématiques du siècle de 1900 à nos jours. Et je laisse tout de suite la parole à Johan Servi pour cette conférence olfactive. Merci à vous.
Merci Marie. Bonsoir, je suis ravi également de vous accueillir au sein du Centre Pompidou et de la BPI. Je vous remercie pour votre présence nombreuse. Je m'appelle Johan Servi, donc je suis effectivement critique de parfum pour la revue olfactive Né, le site de critique en ligne auparfum.com. J'ai coécrit également l'année dernière un ouvrage intitulé « Les 111 parfums qu'il faut sentir avant de mourir ». Et comme Marie l'a dit, j'ai cofondé un laboratoire indépendant de création de parfums. Alors aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir ensemble plus d'un siècle de création olfactive à travers l'histoire de la parfumerie de 1900 à nos jours. Donc nous allons, au cours de cette séance, découvrir, redécouvrir des parfums, de grands parfums qui ont marqué leur époque, parce que le parfum est avant tout un marqueur temporel. Il nous raconte son époque, il nous parle de son temps. Aujourd'hui, la parfumerie est une très grosse industrie, mais le parfum est et doit rester un art, un vecteur d'émotion, de souvenir. Je pense que cela est très important. C'est aussi un art en lien avec d'autres domaines, d'autres univers, comme la littérature, les arts plastiques, le cinéma, également les mouvements sociaux, politiques. Donc ce n'est pas qu'un simple outil de séduction, ce n'est pas qu'un simple sambon. Le parfum, c'est bien plus que cela. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ce soir. Pour bien appréhender le propos et comprendre l'évolution de la parfumerie au cours des 100 dernières années, nous allons sentir. C'est-à-dire que nous allons vous distribuer à chaque fois une touche parfumée. Alors il y en aura une pour deux, compte tenu du nombre important de personnes présentes ce soir. Donc je vous demanderai de bien vouloir la partager avec votre voisine ou votre voisin. Lorsque nous vous distribuerons ces touches, le nom du parfum ne sera pas divulgué. Vous pourrez prendre un petit peu de temps pour le sentir, laisser parler vos émotions, votre ressenti. Ce après quoi, le nom du parfum sera divulgué et nous parlerons ensemble de son contexte de création, son histoire et de quelle manière est-ce qu'il nous parle, ou pas d'ailleurs, de son époque. C'est une séance que j'ai souhaitée interactive et non pas professorale. Donc, malgré encore une fois le nombre élevé de participants, je souhaite qu'il y ait des interactions. Donc, à plusieurs moments, je vais vous demander, vous solliciter, demander votre avis, vos réactions. Et lorsqu'il y aura des moments réservés aux questions, nous ferons passer un micro dans la salle afin de faciliter la compréhension de tous. Avez-vous déjà des questions ? Sur le fonctionnement. Donc je vous demande de bien suivre. Si vous avez des stylos, c'est encore mieux afin de noter sur les petites touches le nom des parfums pour ne pas vous emmêler, dans le jargon, les mouillettes. Voilà, nous appelons ça les touches parfumées, nous appelons ça les mouillettes dans le domaine de la parfumerie. Alors, avant de commencer à sentir, je souhaiterais faire un état des lieux de la parfumerie au 19e siècle. Il faut savoir que jusqu'au milieu du XIXe siècle, la parfumerie française a peu évolué et est encore héritière de l'Ancien Régime. En revanche, en pleine période de révolution industrielle, le domaine de la chimie organique connaît de très nets progrès et va permettre l'introduction en parfumerie de composants de synthèse, de molécules de synthèse, de matières premières de synthèse, que les parfumeurs de l'époque vont commencer à employer. Alors évidemment, les parfumeurs n'en parlent, ne communiquent pas dessus, on n'en parle jamais à la cliente ou au client, chose qui d'ailleurs a peu changé, même au début du XXIe siècle. où tout est forcément merveilleux et 100% naturel, non. Progressivement, ces progrès en chimie organique vont permettre l'introduction de ces nouveaux composants et de créer des formes olfactives novatrices et inédites. Mais en 1850, 1860, jusqu'au même 1880, le parfumeur a pour tâche de recréer le beau naturel. En fait, la parfumerie est essentiellement naturaliste et cherche à recopier, à copier les éléments de la nature. Alors à l'époque, vous avez pléthore de lilas, de roses, de violettes, de jasmin qui sont proposés sur le marché et qui sont composés en partie des nouvelles matières de synthèse. Donc évidemment, on ne communique pas dessus. Et il y a toute une psychologie olfactive qui commence à s'élaborer, une psychologie même marketing. C'est-à-dire que si vous êtes légère, joyeuse, pétillante, eh bien vous serez une femme lila, une femme muguet, une femme rose, violette, etc. Tout ça va progressivement changer, après 1889 notamment, avec une nouvelle manière de composer et de concevoir le parfum. Progressivement, nous allons passer du beau naturel au beau artistique. Et la parfumerie va véritablement devenir un art, avec la création de nouvelles formes olfactives beaucoup plus abstraites, sophistiquées, complexes et mystérieuses. Et je vous propose dès à présent de sentir un très grand parfum, créé au tout début des années 1900, et qui reflète parfaitement la manière de concevoir la parfumerie à l'époque. Alors, est-ce que tout le monde a pu sentir ? Pas encore. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est un parfum jeune, moderne, rétro, daté? Aujourd'hui, ça semble daté, mais peut-être qu'à l'époque, la violette. D'accord. Pardon? Poudré. Oui. Oui, oui. Effectivement. Est-ce qu'il vous évoque une couleur, un paysage, quelque chose ? La pluie. C'est intéressant. J'ai entendu la couleur orange ? D'accord. Les vieux tiroirs. Donc le bois, un aspect encaustique peut-être aussi. C'est un parfum qui est encore commercialisé actuellement, oui. Est-ce que certaines ou certains l'ont reconnu ? Le A. Ah. Entendu. Alors, la parenté avec l'heure bleue est tout à fait justifiée, mais ce parfum le précède. C'est Après l'ondée, effectivement, de Guerlain, qui a été créé en 1906 par Jacques Guerlain, donc un des plus grands parfumeurs de l'ère moderne, du XXe siècle, qui va nous léguer des chefs-d'œuvre de la parfumerie. Après l'ondée est un parfum qui a été créé donc en 1906, qui est un parfum très important dans l'histoire de la maison Guerlain. La maison Guerlain a été créée en 1828, Donc elle est déjà très bien installée sur le marché français. Elle était devenue fournisseur officiel de l'impératrice Eugénie sous le Second Empire. Et puis, progressivement, le style olfactif Guerlain, qui était très tourné vers, par exemple, des eaux florales et des eaux de Cologne, va évoluer avec l'utilisation de plus en plus importante de ces nouvelles molécules, de ces molécules de synthèse découvertes les années précédentes. Alors, Après l'ondée est un parfum léger, diaphane. C'est un parfum qui est censé évoquer, un peu à l'image des peintres impressionnistes, l'idée d'un sous-bois au printemps après la pluie. Donc quelque chose d'assez poétique, imagé, et qui est abstrait. Alors effectivement, il y a des notes de violette, des notes d'iris, il y a cet aspect poudré que vous avez évoqué, mais tout ça sert un propos beaucoup plus abstrait, beaucoup plus complexe, et sert à dépeindre finalement un paysage de nature. C'est un parfum qui reflète parfaitement le style des années 1900, bien qu'il soit un petit peu avant-gardiste. À l'époque, c'était un parfum assez jeune. Alors effectivement, les perceptions ont tellement changé au cours du siècle qu'aujourd'hui, on peut s'en amuser. Et j'entends souvent, ce parfum m'évoque alors effectivement des vieux appartements, des vieilles maisons, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère. Mais c'est un très très grand parfum, délicat, harmonieux, léger, aérien et fluide, et qui est révélateur de ce qu'on appelle la belle époque. Donc avec beaucoup de douceur, de charme, de candeur, de délicatesse, et qui définit très bien le style de la parfumée qui précède la Première Guerre mondiale. Ah, je vous demandais de lever la main, quelles sont les personnes qui aiment ce parfum ? D'accord. Et les personnes qui le trouvent intemporel, c'est-à-dire portable aujourd'hui ? Bon, c'est pas mal. C'est bien, vous avez du goût, c'est très bien. On va passer au parfum suivant. Alors à l'époque, le marché de la parfumerie est dominé par les vraies maisons de parfum, c'est-à-dire des parfumeurs bien installés, dont la parfumerie est l'activité centrale, sinon principale, voire unique. Donc il y a Guerlain, Caron également, qui a été créé en 1904, Houbigan, Piver, et ce sont toutes ces marques qui permettent d'illustrer la grandeur de la parfumerie française dans le monde. À partir de 1914, la guerre éclate. La parfumerie subit effectivement les horreurs du conflit et va renaître à partir de 1919 avec des créations totalement différentes. Un genre olfactif nouveau, la belle époque est balayée, le style Art Nouveau également, et fait place à l'Art Déco. L'exotisme, l'Orient, l'évasion suscitent le rêve, le désir. Paris est le centre culturel mondial et on se tourne de plus en plus vers l'ailleurs. Les femmes également ont beaucoup changé. Les codes vestimentaires avec l'apparition de ce qu'on a appelé la garçonne. On n'est plus engoncé dans les froufrous, les fanfreluches. La coupe de cheveux est courte, certaines femmes commencent à fumer, à conduire, et la parfumerie qui reflète toujours son époque va s'adapter à ces nouveaux mouvements sociaux. Est-ce que vous trouvez ce parfum différent de celui que nous venons de sentir ? Donc apparemment, oui, radicalement. En quoi ? Plus vert, plus épicé, chaud, cuivré ? Cuiré. Toujours l'aspect poudré, effectivement, qui demeure. Plus masculin, effectivement, parce qu'après la Première Guerre mondiale, la parfumerie qui s'adresse à ce nouveau genre de femmes qui se sont un peu émancipées hein, pendant l'effort de guerre, qui ont dû assurer seules les tâches, le travail, les tâches ménagères, qui ont dû prendre une certaine indépendance, ces femmes ont changé, effectivement. Et la parfumerie va commencer à brouiller les codes, les genres masculins, féminins, avec des parfums plus androgynes, plus puissants, plus racés, qui exprime déjà une féminité plus puissante, exacerbée, forte. L'avez-vous reconnu ? Oui, bravo. Bravo, c'est Mitsuko de Guerlain, qui a été créé par Jacques Guerlain encore en 1919, donc au sortir de la guerre. Et Mitsuko est un parfum que l'on appelle un chypre fruité. Alors, pour faire très simple, le chypre en parfumerie, c'est un accord de bergamote, de jasmin, de cistolabdanum, qui est une résine, et de patchouli et de mousse de chêne. Pour être simple, le fond d'un parfum chypré évoque l'odeur des sous-bois à l'automne, l'odeur de la terre, l'odeur de la mousse, de l'humidité. Et Mitsuko est un parfum incroyable qui va reprendre ces éléments chyprés que l'on doit déjà au chypre de Coty. Coty était un très grand parfumeur de l'époque et il avait créé en 1917 son chypre qui commence à faire référence. Jacques Guerlain, la légende nous raconte qu'il s'en inspire. Il va néanmoins transformer radicalement la formule et le rendu olfactif, notamment par l'introduction d'une note fruitée de pêche. Est-ce que vous la sentez ? Il y a cette note de fruits jaunes en tête, juteuse, acidulée, pétillante, qui vient contrebalancer l'aspect beaucoup plus sombre des notes chyprées, mousse de chêne, patchouli, vétiver. Donc il faut bien comprendre à l'époque que c'est un parfum qui peut choquer. C'est un parfum androgyne qui a été porté par les dandys, notamment. De l'époque. Un parfum qui n'a pas vraiment, selon moi en tout cas, de genre, et qui vous raconte l'histoire d'une promenade en forêt un dimanche d'automne, par exemple, dans les sous-bois. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est moderne ? Oui, plutôt. D'accord. C'est dépassé aujourd'hui ? L'androgynie ? Effectivement, aujourd'hui la parfumerie, mais nous le verrons par la suite, est beaucoup plus codifiée et genrée, avec une exacerbation de la virilité et d'un autre côté de la féminité. Tout à fait. Oui, c'est vrai, globalement. Un peu démodé. D'accord. Mitsuko. Alors, en fait, Mitsuko est l'héroïne d'un roman de Claude Farrère qui s'appelle La Bataille, qui est écrit en 1909 et qui nous raconte l'histoire du conflit russo-japonais. Donc, vous voyez le lien à l'époque entre la parfumerie et d'autres formes d'art, notamment la littérature. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, la parfumerie s'adresse aux plus hautes classes de la société. On touche l'aristocratie, la haute bourgeoisie. Monsieur et madame, tout le monde ne se parfume pas. Les budgets ne le permettant pas. C'est un vrai objet de luxe extrêmement onéreux. Et l'on ne se parfume pas vraiment au quotidien, le matin en sortant de sa douche. Non, la parfumerie est réservée au grand soir, aux réceptions, les galas, l'opéra. On parfume notamment les doublures des manteaux de fourrure. Ce n'est pas un objet du quotidien. Il a quelque chose d'exceptionnel. Donc là, nous venons de sentir un parfum d'un illustre parfumeur, Guerlain, mais à la fin des années 10 et surtout durant les années 20, Un fait nouveau se produit dans l'univers du parfum, c'est l'apparition de ce qu'on va appeler les couturiers parfumeurs. Donc des couturiers qui vont décider de lancer, aux côtés de leurs lignes de haute couture, des lignes de parfum. Et ça, c'est un vrai problème pour les maisons de parfum traditionnelles qui n'ont qu'une activité majeure, de voir entrer sur la scène des concurrents avec une grande notoriété, une très belle image, qui vont venir peu à peu gratter leur part de marché, en fait. Et le parfum que vous sentez là est un parfum de couturier. Pardon ? Je ne vous ai pas entendu. Jean Patou, non, mais effectivement, Jean Patou est un couturier parfumeur, un des plus grands couturiers des années 20, des années folles. Oui. Alors, c'est Chanel, mais ce n'est pas le fameux numéro 5 de 1921. C'est un parfum moins connu que vous pouvez encore trouver aujourd'hui sur les stands, les points de vente et les boutiques Chanel. C'est Cuir de Russie. Alors, Gabrielle Chanel est une couturière qui a rencontré un succès phénoménal à la fin des années 10 et notamment dans les années 20. Elle lance en 1921 son premier parfum, le fameux numéro 5, qui deviendra, durant les décennies suivantes, le parfum le plus vendu au monde. Celui que vous sentez là est beaucoup plus confidentiel. Il s'appelle Cuir de Russie, il a une histoire qui est très intéressante. Il faut bien comprendre que dans les années 20, Paris est une terre d'accueil, un refuge pour les Russes blancs, donc les aristocrates russes qui ont fui la révolution de 1917. Et du coup, Chanel s'entoure d'intellectuels russes, d'artistes russes, et elle va être inspirée dans sa mode, mais également dans certaines de ses créations par cet exotisme russe. Alors, ce Cuir de Russie, parfum d'homme, parfum de femme, mixte, c'est encore un parfum qui va brouiller justement les codes olfactifs, les genres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aquatique, d'accord. Alors en fait, c'est également un parfum floral avec un fond curé. Vous avez une forte dose de jasmin et en tête, c'est-à-dire lorsque vous sentez les premières notes, des aldéhydes. Les aldéhydes sont des composants de synthèse qui ont été employés en masse dans le numéro 5 qui avait été créé quelques années auparavant et qui ont une odeur un peu de cire chaude, métallique, parfois orangée, qui vont apporter beaucoup de montant au parfum et qui vont venir flouter, par exemple, le cœur floral pour parfaire l'effet d'abstraction. Et il rentre également dans la composition de ce Cuir de Russie. Alors aujourd'hui, pour les amateurs de parfums, les cuirs qui sont redevenus à la mode sont des cuirs brutaux, très animalisés, monolithiques. À l'époque, ce n'est pas du tout le cas. Ils ont des cœurs floraux très puissants, ils sont beaucoup plus complexes, sophistiqués. Ils sont effectivement quelque peu choquants pour l'époque, mais il faut quand même parvenir à séduire également la clientèle féminine bourgeoise. Et je trouve que ce Cuir de Russie est un modèle très intéressant qui fait le lien entre cet éclat des notes florales comme le jasmin, lumineuse donc, et ce fond beaucoup plus sombre de notes cuirées, de bouleau notamment, de castoreum qui est une matière première animale, de musc, et qui nous parle, c'est un parfum un peu nostalgique, qui nous parle d'un monde disparu. Puisqu'à l'époque, la Russie, évidemment, est passée sous le régime communiste et l'empire des tsars n'est plus. Avez-vous des questions ? Alors, je pense que vous pouvez vous apercevoir par rapport à Après l'Ondé que nous avons senti au début, l'évolution déjà de la manière de concevoir la parfumerie, de formuler, d'exécuter un parfum, l'évolution déjà des codes olfactifs au début du XXe siècle avec des formes beaucoup plus fauves, chaudes, complexes, androgynes. Et donc les années 20 sont une période fastueuse pour la parfumerie avec l'émergence de ces nouveaux codes. Les couturiers parfumeurs émergent et se développent. On pense bien évidemment à Chanel, mais également à Jean Patou, Jeanne Lanvin, qui vont lancer eux-mêmes toute une gamme de parfums. Certains nous sont parvenus aujourd'hui, d'autres ont bien évidemment disparu. Mais c'est un fait très important des années 20, une sorte d'exaltation de l'art créatif. Les années 30 vont quelque peu ressembler aux années 20, malgré la crise de 29. Le marché se porte tant bien que mal. Les marques lancent un peu moins de parfums, mais la situation économique demeure relativement stable pour l'univers de la parfumerie jusqu'au conflit, jusqu'à 1939 et la Seconde Guerre mondiale. La parfumerie va fortement endurer le conflit. Certaines marques vont péricliter. D'autres, par exemple les usines Guerlain dans les Hauts-de-Seine vont être bombardées. Caron, qui est une des plus grandes maisons de parfums de l'époque, voit son créateur Ernest Daltroff, juif, fuir les persécutions antisémites, partir aux États-Unis où il mourra à New York en 1941. Donc il faut bien comprendre que les lancements sont beaucoup moins nombreux, les marques ne misent que sur leurs valeurs sûres, les flacons sont même standardisés. À l'époque, vous pouvez avoir un nombre incalculable de parfums qui seront proposés dans un même flacon, dans un modèle provisoire de guerre. Donc c'est une période de crise. En revanche, la fin du conflit sonne une nouvelle ère pour la parfumerie et cette fois-ci, les couturiers parfumeurs vont dominer le marché. Ils seront de plus en plus nombreux. On pense à Christian Dior, notamment, qui est certainement l'un des plus grands couturiers de la seconde moitié du XXe siècle. Il n'est pas le seul. Avez-vous devinez, reconnu le parfum que vous sentez là? L'air du temps. Oui? Joy? Non. C'est effectivement l'air du temps. Qu'est-ce que vous sentez dans l'air du temps? Le bébé sale. Oui? Effectivement. Vu d'aujourd'hui, c'est intéressant parce que les référents ont tellement changé et les parfums anciens ont souvent des éléments un peu fauves, un peu animalisés, qui peuvent nous sauter au nez aujourd'hui. Oui ? Girofle. Oui, effectivement, tout à fait. C'est un parfum floral qui met en avant l'œillet et donc la note épicée de l'œillet est notamment reproduite via des matières de synthèse que l'on tire du clou de girofle. Donc tout à fait, vous avez raison. Donc, c'est un gros bouquet d'œillets qui est destiné à la jeunesse d'après-guerre. Alors, comme en témoignent notamment les flacons avec ces deux colombes enlacées qui nous parlent d'une paix retrouvée, c'est un message de paix envoyé au monde. Le parfum est un floral plutôt doux, aérien, qui se veut jeune à l'époque. Alors est-ce qu'aujourd'hui, quand on le porte, on est en route pour le cimetière? Je ne sais pas, à vous de me le dire. Qu'en dites-vous? Est-ce un parfum jeune, intemporel, daté? Daté. Alors c'est un avis qui revient souvent effectivement lorsque je fais découvrir ce parfum et qui s'explique par cette note d'œillet qui était employé en masse et très à la mode dans les parfums jusqu'aux années 40, 50, 60 à peu près, et qui est par la suite tombé en désuétude. Donc, de par cette note d'œillet épicé, ce parfum marque son temps. Mais il est très important, et vous voyez d'ailleurs la différence déjà de par son flacon, qui est en cristal lalique, un peu plus alambiqué, avec des rondeurs et ces deux colombes qui s'enlacent, un message de douceur, un message tendre, un message poétique lancé aux nouvelles générations dans une société qui reste traumatisée par les années précédentes. Donc là, on voit une rupture qui s'est amorcée entre la parfumerie des années folles, fauve, exotique, androgyne, pour une femme forte, émancipée, et l'après-guerre, les années 40, qui nous parle de douceur et d'un message de paix que l'on souhaite éternel. En tout cas, qui aime ce parfum? Là, il y a beaucoup moins de monde déjà. C'est un parfum qui était l'un des plus vendus de France. Oui, monsieur? Ce que vous sentez là, c'est l'extrait de parfum commercialisé actuellement. Alors pour celles et ceux... Oui, Mathilde. Alors je vais préciser que toutes les versions que nous sentons sont celles qui sont actuellement commercialisées. Il ne s'agit pas des versions vintage. Alors petite parenthèse assez rapide. Les parfums, depuis très longtemps, mais c'est un fait qui s'est accéléré au cours de ces dernières années, les parfums sont reformulés, c'est-à-dire que l'on change régulièrement les formules, de manière plus ou moins importante, subtile, pour des raisons assez complexes et variées, la principale étant les réglementations européennes, qui sont de plus en plus contraignantes et qui prohibent l'usage de certaines matières. Donc on doit trouver des substituts. Il y a aussi la perte de formules anciennes, de bases impossibles à recréer aujourd'hui, les méthodes ont changé, les lieux d'approvisionnement, tout ça a été modifié, et ce qui oblige régulièrement, c'est un travail à plein temps, les parfumeurs à revoir les formules, et notamment des anciens parfums. Donc je vous invite éventuellement à l'occasion à venir à une conférence consacrée à la parfumerie vintage, où je pourrais vous faire sentir des parfums anciens, olfactivement préservés, issus de ma collection personnelle, mais là, je voulais mettre en avant les versions encore commercialisées, pour montrer aussi, remettre en avant des parfums qui sont aujourd'hui méconnus et que l'on retrouve souvent en bas des étagères, hein, au profit des nouveautés. Alors, Dior, Diorissimo. Oui, bon, on ne peut rien vous cacher, effectivement. Alors, c'est muguet. Est-ce que vous sentez autre chose que du muguet? Non. Bon, ça va. C'est pas mal, de toute façon c'est un soliflore muguet, c'est-à-dire un parfum qui a pour objectif de recréer la fleur de muguet. Mais Diorissimo va beaucoup plus loin. Diorissimo, c'est également l'atmosphère d'un jardin de printemps, également l'odeur des sous-bois, une journée de mai. On y sent la fleur de muguet, on y sent également les tiges, la feuille, l'humidité, la terre. Et je trouve que c'est un parfum absolument extraordinaire. Ce n'est pas le premier parfum de Christian Dior, le premier étant Miss Dior qui avait été créé en 1947. Suivront Diorama, un chypre fruité, en 1949, L'eau fraîche en 1953 et le grand Diorissimo en 1956, créé par Edmond Runitzka, un génie de la parfumerie qui nous a livré les plus beaux parfums de Christian Dior, des parfums historiques de la maison Rochas, et un parfum de chez Hermès également. Edmond Runitzka avait pour habitude de se promener en forêt de Rambouillet au mois de mai avec sa femme Thérèse, et il avait planté un parterre de muguet dans sa propriété aux environs de Grasse. Et il travaillait depuis plusieurs années à cette recherche de sublimer l'odeur du muguet pour en faire un parfum. Edmond Runitzka décriait déjà la parfumerie de l'époque qu'il trouvait trop lourde, riche, saturée d'éléments de synthèse et des formules beaucoup trop longues. Et déjà, il dénonçait le tournant alimentaire de la parfumerie. Alors, qu'aurait-il dit aujourd'hui? Et donc, Diorissimo marque le début d'un travail d'épure dans la façon de formuler et d'exécuter Edmond Runitzka. Donc, c'est un parfum puissant et aérien, léger, fluide, qui a une belle ténacité, qui est doux, très féminin, rond, avec une formule relativement courte, qui va droit à l'essentiel, et qui est certainement le plus beau soliflore muguet, parce qu'au-delà de la fleur, il nous retranscrit un paysage de printemps. Est-ce que c'est un parfum qui vous touche? Oui. D'accord, je suis assez content, parce que souvent, et malheureusement aujourd'hui, le muguet est associé à des produits d'entretien. Voilà, c'est une note qui a été largement employée dans les produits d'hygiène à partir des années 80 et qui a marqué aujourd'hui l'imaginaire populaire. Mais je trouve que Diorissimo, de par sa noblesse, sa complexité, évidemment, permet d'éviter ce genre de... Comment dire? De confusion. En tout cas, on est quand même là sur de la haute parfumerie. Et c'était un parfum pour les jeunes femmes à l'époque. Est-ce que vous le verrez aujourd'hui sur une jeune femme de 20-25 ans? Bon, c'est très partagé, effectivement. Mais en quoi est-ce qu'il marque son temps, selon vous? Une seule fleur. Oui. Effectivement, parce que l'odeur, on ne peut pas extraire le muguet, il est recréé à partir de matière, d'un mélange de matière de synthèse et de matière naturelle. Ah, ça c'est intéressant, de comédie musicale, d'accord. Moi j'y sens un aspect très pur, très virginal. On n'est pas sur un parfum très aguicheur, très sexuel, animalisé, tapageur. On reste voilà, sur quelque chose de très délicat. Oui. Ben, c'est une féminité très BCBG, effectivement. Hein. Christian Dior, c'est pas Yves Saint Laurent. Hein. Facétieux ? Ça, c'est intéressant. Expliquez-moi en quoi. Très lumineux, tout à fait. C'est un éclat de rire. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est un éclat de rire durissimo, c'est un grand sourire. Et il représente très bien cette féminité des années 50, chic, sophistiquée. Un vent de fraîcheur, oui, oui, oui. Est-ce que tout le monde a senti le suivant ? Ça ressemble à de l'eau de Cologne. Oui. Bergamote. Lavande. Cédra. Parlez plus fort au fond, par exemple, si vous avez des... Redites ? Mousse de chêne. Oui. Bon, bah, parfait. Donc, il a reconnu. Bravo. C'est presque un peu frustrant, hein, tout le monde reconnaît tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Hein. Non, tout, bravo, tout à fait. L'eau sauvage. Alors, voilà un des plus grands parfums pour hommes qui nous est parvenu, qui est encore commercialisé aujourd'hui. C'était le parfum pour hommes le plus porté par les femmes. Eh oui. Alors, il y avait peu de grands parfums masculins à l'époque. On pense par exemple à Pour un homme de Caron en 34. Il y aura dans les années 60, au début, Habit rouge de Guerlain. Et cette fameuse Eau sauvage qui va révolutionner la parfumerie. Et qui retranscrit tout à fait le changement, l'évolution des mœurs, le changement des mentalités des années 60. Donc là, on a affaire à un parfum hespéridé. Donc quand je dis hespéridé, je parle des agrumes. Légèrement floral également. Beaucoup, très aérien, beaucoup d'envolée, d'éclat, de fraîcheur, avec un fond chypré de rigueur, très subtil. Ce sera un best-seller. Et ce sera pendant longtemps la référence du parfum masculin. Je pense que dans de nombreuses familles françaises et peut-être également à l'étranger, on a tous, toutes connu un oncle, un grand-père, son papa, un frère, qui a porté, un collègue de bureau, je ne sais pas, qui a porté cette eau sauvage. C'est un parfum véritablement culte et qui va considérablement influencer la parfumerie féminine de l'époque, mais également nombre de créations masculines jusqu'à nos jours. Alors, cette eau sauvage, très moderne. Pourquoi très moderne ? Vivante. C'est beau, ça. Vivante. Il a de la personnalité. Non, ce n'est pas un parfum de tapageur. L'imaginez-vous sur une femme ? Oui. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous le portent, ce parfum, aujourd'hui encore? Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez des souvenirs liés à ce parfum? Avez-vous connu des gens qui l'ont porté? Papa, souvent, oui, oui, papa, oui. Dans ses charentaises, papa, oui. Pardon? Il n'est plus... Ah, les pubs avec... Oui, alors il y a eu les pubs avec Alain Delon, effectivement. On en a eu avec Zinedine Zidane. Et avant, nous avions droit aux belles illustrations de René Gruau. C'est un peu différent. Et donc, c'est très intéressant parce que Eau Sauvage définit très bien la parfumerie des années 60, qui, avec donc une émancipation progressive, on pense évidemment au mouvement de mai 68, qui vont profondément influencer la parfumerie féminine se désembourgeoise, se démocratise, les codes olfactifs sont beaucoup moins guindés, les parfums deviennent plus frais, les eaux fraîches, les eaux chyprées deviennent à la mode, on pense à l'eau de Lancôme, à l'eau de Rochas. La femme porte le jean, le polo. Les parfums restent chics, mais beaucoup plus décontractés. Donc nous allons avoir comme ça, du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, une parfumerie tournée vers des parfums beaucoup plus frais, des colognes revisitées, des notes vertes qui sont très à la mode, signe de fraîcheur, des parties de campagne, des parties de golf également. Une parfumerie un peu libérée des carcans des décennies précédentes, avec beaucoup de fluidité, de légèreté. Oui ? Alors oui, effectivement, dans les années 90, il y avait, je me souviens, de nombreux parfums qui étaient des sortes de contre-types de l'eau sauvage, qui étaient vendus sous forme d'eau de toilette ou d'aftershave, et qui reprenaient totalement les codes de l'eau sauvage. Moi, c'est un de mes premiers parfums à l'âge de 7 ans, je crois. Une bouteille de parfum, alors je ne sais plus en francs à l'époque, de chez Leclerc, peut-être qui doit coûter aujourd'hui l'équivalent de 5 euros, et qui était une copie de l'eau sauvage, je me souviens très bien. Donc c'est un parfum, évidemment, qui a une très très grande influence, qui a été le best-seller des parfums Dior durant de très très nombreuses années. Oui, comme souvent les parfums classiques, complexes, qui ne se donnent pas facilement. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous entrez dans un Sephora, dans une parfumerie, Marionneau, autre parfumerie sélective, avec un air saturé en odeur. Vous sprayez votre parfum, vous avez une centaine de personnes autour de vous qui en font de même, et vous devez faire votre choix dans les premières secondes. Eh bien, bonne chance. Donc, évidemment, je vous invite fortement à demander un échantillon ou alors appliquer le parfum sur vous et sortir de cet environnement pour pouvoir le découvrir, l'apprécier au mieux. Cela est d'autant plus vrai avec les grands parfums classiques qui sont souvent très évolutifs, complexes, qui vont révéler des facettes différentes en fonction de la température, du moment de la journée. Il faut savoir qu'on sent mieux le matin que le soir, le nez étant beaucoup plus fatigué le soir. Donc tout ça, voilà, il faut, dans une société qui est de plus en plus rapide, se laisser un peu le temps, parce que le parfum, effectivement, on se parfume souvent pour les autres. J'espère que vous parfumez également pour vous. Eh oui, c'est essentiel quand même. Alors évidemment, quand on a une femme ou un mari qui ne supporte pas le parfum que vous portez, c'est un peu plus compliqué. Ça, effectivement, je ne sais pas que vous conseillez, mais c'est aussi un acte de bien-être personnel. Et c'est important de s'en souvenir, je crois. Ah bon, alors, non, allons-y. Bravo, madame. Oui, le prochain parfum, le parfum que nous sentons actuellement, c'est Opium. C'est vrai ? À 19 ans, c'est le premier parfum que vous êtes offert ? Bravo. Eh oui. Ce que vous sentez, c'est la version actuellement commercialisée d'Opium, je le rappelle. En autre parfum. Oui, je vais y venir. Voilà un parfum révolutionnaire qui va ringardiser tous les parfums, pratiquement tous les parfums créés les années précédentes. Ce parfum, c'est un parfum qui a été voulu par Yves Saint Laurent en personne, qui a dû lutter pour qu'il sorte, alors déjà de par son nom qui était quand même quelque peu problématique à l'époque. C'est comme si nous appelions aujourd'hui un parfum, bon, quoi que ça pourrait passer aujourd'hui finalement, je ne sais pas, marijuana, héroïne, cocaïne, voilà, donc c'est opium, et qui retranscrit déjà tout l'univers fantasmatique d'Yves Saint Laurent, sa passion pour l'Orient, pour l'Extrême-Orient. C'est un parfum qu'il avait voulu pour l'impératrice de Chine. Ce parfum va remettre au goût du jour un genre quasiment oublié en France depuis la Seconde Guerre mondiale, celui des orientaux. Donc des notes, chaudes, ambrées, vanillées, résineuses, très puissantes. C'est un parfum de sillage, c'est une révolution. Il y a une cohérence absolument parfaite entre son nom, son flacon, qui reproduit un objet appartenant aux samouraïs, qui s'appelle l'inro, dans lequel ces derniers cachaient des plantes médicinales pour soigner, pour atténuer les douleurs, et également de l'opium. Et son parfum, qui est un parfum, qui était voulu comme un parfum d'extase. Et donc on se souvient peut-être, je ne sais pas, en tout cas, ce slogan a marqué toute une époque, « Opium pour celle qui s'adonne à Yves Saint Laurent ». C'est un parfum qui fera évidemment scandale, notamment aux États-Unis, lors de son lancement. Il y aura même des manifestations dans les rues de New York. Et ce qui va fortement influencer et jouer sur son succès. C'est un parfum que l'on va sentir partout, dans les rues, en France, dans l'espace public, au bureau, dans les transports en commun, et qui va, malheureusement, pour certains, donner de jolis mal de tête, parce que les femmes de l'époque en usaient, en abusaient. C'est un parfum qui a connu de grandes ruptures de stock. Quand l'eau de toilette n'était plus disponible, les gens n'hésitaient pas à acheter l'extrait de parfum, qui était beaucoup plus onéreux. Mais il fallait porter cet opium. Alors, opium est construit autour d'une note orientale, florale, épicée, boisée. C'est un parfum assez complexe qui va mettre en avant des aldéhydes avec cette note métallique, orangée. L'œillet, ici, est en majesté, donc cette fleur un peu crémeuse, épicée, poivrée. Et puis des notes beaucoup plus résineuses, baumées, vanillées, musquées, chaudes, orientales, quelque peu boisées et chyprées également. C'est un parfum de soir. À l'époque, on sort au palace. Voilà, on fume énormément. Et le parfum doit tenir sur peau, sur les vêtements, masquer également l'odeur du tabac, de la cigarette. Il doit encore perdurer malgré les environnements saturés des discothèques, la transpiration, la sueur. C'est un parfum qui ne vous lâche pas, qui peut tenir sur des vêtements des semaines entières et qui était vendu en moyenne 30% plus cher que les parfums de l'époque. Non pas que sa formule soit excessive en termes de coût, mais c'était un positionnement marketing pour le positionner sur un segment haut de gamme ultra-luxe. Alors, opium, qu'en pensez-vous ? Vous adorez, c'est bien ? Pardon ? Horrible, ah ! Alors, expliquez-nous. Le parfum qui pue, c'est opium. Ah, c'est intéressant. Et poison étant la réponse des parfums Christian Dior dans les années 80 au parfum opium. Oui. Haut de gamme. Oui. Alors, Rigaud, c'était avant, c'est en 71. Alors, Rigaud, c'est vraiment l'univers des salons de prêt-à-porter Saint-Laurent, Saint-Germain-des-Prés. On pense à Catherine Deneuve. C'est une féminité à la fois émancipée, mais aussi à beaucoup de froideur, cette élégance française. Très métallique, effectivement, Rigaud. Oui, un grand parfum floral aldéhydé, métallique, avec quelque chose derrière son aspect froid, bourgeois, quelque chose comme de d'assez chaud, d'assez sulfureux sexuel. Mais tout ça se devine. On ne vous présente pas son sexe en pleine figure. Hein. Vous voyez ? Alors, Opium, déjà, va un peu plus loin dans l'aspect charnel et tapageur. Qui l'a porté ici ou le porte encore ? Ça ne fait pas grand monde. Madame, votre premier parfum. Monsieur ? Ah. Oui. Oui. Bien sûr. Alors, la petite histoire. Effectivement, en 1952, Estée Lauder, hein, que l'on connaît, qui est une très très grande marque de cosmétiques américaine, donc Madame Lauder décide de lancer une huile pour le bain parfumé. Elle trouve qu'à l'époque, dans les années 50, effectivement, les femmes, la bourgeoisie américaine, voilà, assez conservatrice, les femmes ne s'achètent pas leur propre parfum. Elles pensent qu'elles auront davantage de facilité à acheter une huile parfumée. Alors attention, ça rigole pas, parce qu'on mettait ça dans le bain, après vous en aviez pour la semaine. Donc ce fameux Use Dew, qui veut dire rosée de jeunesse, je vous invite à le sentir aujourd'hui, je ne sais pas si le nom colle encore au ressenti actuel. Donc Use Dew, effectivement, est un parfum oriental, œillet, épicé, et Opium s'en inspire, volontairement ou non, on ne sait pas trop, et j'évite de colporter les jolies légendes de la parfumerie. Je préfère dire voilà, que l'on ne sait pas trop aujourd'hui. Et Madame Lauder va être furieuse. Lorsqu'Opium est lancé aux États-Unis, elle va dire « Mais c'est Use Dew avec un gland. » Voilà la phrase qu'elle aura. Et donc elle riposte un an plus tard avec Cinnabar, qui s'inspire de par son univers, son flacon d'opium. Donc Cinnabar est la réponse d'Estée Lauder à Opium, qui était déjà, selon elle, un plagiat, une copie de son parfum Use Dew. Donc là, vous avez trois belles variations. Si vous aimez le genre, vous êtes gâtés. Hein. Vous en avez trois assez proches. Bon, bien sûr, il y a des nuances hein, assez perceptibles. Mais oui, Cinnabar est la réponse d'Estée Lauder à Yves Saint Laurent, tout à fait. C'est un parfum qui a beaucoup plu aux États-Unis, Cinnabar. Oui. Oui, la formule d'Opium a changé. Si vous avez l'occasion de sentir, par exemple à l'Osmothèque de Versailles, le Conservatoire international du parfum, ou à assister à une autre de mes conférences consacrée à ces parfums anciens, vous pourrez sentir des anciennes versions qui sont effectivement différentes. Opium a dû être reformulé, car sa composition n'était plus du tout adaptée aux réglementations, notamment européennes, et donc de nombreuses matières ont dû être modifiées. Oui. Alors, vous le trouvez comment ? Plus doux, oui, moins épicé. Effectivement. Il est moins épicé, moins violent, il a peut-être moins de fougue, mais je me demande s'il n'est pas aussi plus portable au XXIe siècle. C'est un parfum dont nous avons fêté l'année dernière les 40 ans. C'est un parfum qui a été extrêmement vendu en France et dans le monde jusqu'aux années 90. C'était vraiment le pilier des parfums Yves Saint Laurent et qui a beaucoup contribué à l'image de luxe de la marque. Mais les modes changent et c'est peut-être un parfum aujourd'hui qui a besoin de trouver une nouvelle clientèle. Et je pense qu'avec sa formule actuelle, peut-être plus douce, moins épicée, moins tumultueuse, il pourrait séduire une clientèle plus jeune, qui n'est plus habitué à ce genre de parfum. Est-ce que vous le trouvez difficile à porter, ce que vous sentez là ? Ça va ? Oui. Alors, le problème toujours, c'est que des parfums comme Opium et Poison, certaines personnes qui ont très bien connu les années 80, en gardent de mauvais souvenirs. Il faut bien comprendre que ces parfums, on s'en aspergeait à l'époque. Mais je vous invite à redécouvrir ce parfum aujourd'hui, ainsi que Poison de Dior, l'original, couleur améthyste, la pomme, le fruit défendu, qui a été créé en 1985, porté par petites touches. Je vous assure que ces parfums donnent le meilleur d'eux-mêmes et sont absolument sublimes. Et souvent, je fais sentir Poison, nous ne le sentirons pas aujourd'hui, mais je le fais sentir dans le cadre de conférences à l'aveugle, si je puis dire, expression un peu étrange. Et à chaque fois, c'est un grand succès. Les gens, hommes, femmes, adorent. Et quand je révèle le nom du parfum, oh mon Dieu ! Ah non, mais quelle horreur, c'est Poison. Ça a traumatisé des générations hein, dans les années 80, hein, poison. Hein. Mais voilà, le temps passe, les souvenirs changent, et je vous invite à redécouvrir ces parfums d'une époque très particulière. Donc, je l'avais dit, Opium va inscrire une véritable rupture pour la parfumerie française des années 70 et va préfigurer plus de 10 ans de création olfactive. Après Opium, la plupart des grandes marques vont lancer des parfums orientaux, exotiques, puissants, ambrés, boisés. On peut penser notamment à Magie Noire de Lancôme en 1978. Il y aura Coco de Chanel en 1984 et plein d'autres. Dior Essence de Christian Dior également. Toutes les marques vont appliquer ce modèle oriental pour leur nouveau lancement. On pense effectivement à l'époque avec des codes esthétiques aussi en termes de mode, de maquillage assez spécifique, une féminité exacerbée, très puissante, presque agressive. C'est l'image de la working girl, de la femme qui doit s'imposer dans un univers professionnel masculin, machiste, parfois misogyne. C'est une femme également qui sort, qui fume. Alors on a la veste avec les maxi-épaulettes, le maquillage couleur lagon des mers du Sud. Oui, effectivement. Et oui, et alors oui, effectivement, un volume capillaire assez démentiel. Si vous avez en tête l'image des séries Dynasty ou Dallas, ça vous donne une petite idée des modes de l'époque. Donc une tendance de parfums lourds, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon des amateurs, des passionnés de parfums, les gifoutous. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout mis, on a mis les matières les plus riches, les plus saturées, les plus puissantes pour créer des sortes de parfums nucléaires au sillage, vraiment nucléaire. Et tout ça va quelque peu changer au début des années 1990. Alors les années 90, c'est une période très complexe à appréhender, que l'on méprise souvent, qu'on juge un peu fade, sans saveur, et c'est à mon sens une belle erreur. C'est une époque extrêmement complexe à appréhender, avec des tendances très différentes, quasi antagonistes. Alors pourquoi c'est Mugler ? Oui. Mais vous travaillez tous dans la parfumerie, c'est pas possible. C'est Angel. Angel avec cette fameuse publicité, Jerry Hall, photographiée dans le désert du Nouveau-Mexique. Angel, véritable choc olfactif, choc esthétique en 1992 lorsqu'il sort. Parfum voulu, pensé par Thierry Mugler, qui souhaitait lancer un parfum qui parlerait des réminiscences de son enfance, des fêtes foraines, de la foire du trône, des souvenirs de la praline, de la barbe à papa. Et donc Angel, c'est l'introduction de notes gourmandes, pralinées, qui sont ici surdosées. Et que cette note de praline, que l'on doit en partie à une molécule de synthèse qu'on appelle éthylmaltol et que l'on retrouve aujourd'hui de manière quasi omniprésente dans les nouveaux parfums. Alors, pour contrebalancer cet aspect extrêmement gourmand, gustatif, il y a dans ce parfum une surdose de patchouli, avec cette odeur boisée, terreuse, très sombre, qui apporte à Angel une très grande complexité, une vraie dualité. C'est un parfum qui n'a pas été un franc succès à sa sortie et qui a nécessité beaucoup de courage de la part des équipes marketing chez Mugler pour être lancé. À l'époque, on pouvait lancer un parfum sans réaliser un test consommateur. Aujourd'hui, en parfumerie grand public, c'est extrêmement rare. Si ce parfum avait été soumis à un panel de consommateurs, il est probable qu'il n'aurait jamais été lancé. Tant il est improbable, finalement, puissant. Tant il se construit autour de notes presque antagonistes. C'est un parfum lourd, c'est un parfum riche qui va progressivement trouver une clientèle fidèle qui ne jurera plus que par ce parfum. Encore une fois, il y a un génie, je dirais, marketing, une cohésion absolument parfaite entre ce flacon, cette étoile, cette couleur d'un bleu céleste et ce parfum qui nous parle de l'univers de l'enfance. Alors, il aura droit à de nombreuses éditions limitées avec des flacons collector qui vont permettre de susciter le désir des collectionneurs et des femmes qui lui sont fidèles de racheter ce parfum. Progressivement, Angèle va devenir l'un des piliers de la parfumerie française, l'un des 5 parfums les plus vendus en France. Alors, cette Angèle, en avez-vous des souvenirs ? Oui. Des bons ou des mauvais ? Très bien. L'avez-vous porté ?
Oui.
D'accord. Messieurs aussi ? Ah, bah, très bien, très bien. Oh, c'est très bien. Dès qu'il est sorti, ah oui, vous étiez avant-gardiste, bravo. Hein. Oui, alors je n'entrerai pas dans ce débat. Mais vous savez, les copies en fait en parfumerie ne sont malheureusement pas nouvelles. Elles ont toujours existé, elles existent toujours. Il se trouve que dans ce cas-là, oui, il y a eu un procès entre la société Thierry, voilà, entre Molinard et... Il y avait une proximité olfactive assez nette. C'est valable pour ? Absolument. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors on pense aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on dit aujourd'hui tous les parfums se ressemblent. Effectivement, il y a, c'est vrai, une parenté, les lancements. Voilà, on tourne autour de notes essentiellement gustatives. Mais les copies ne sont pas nouvelles. Alors plutôt que de parler de copies, on peut aussi parler de sources d'inspiration. Pourquoi pas ? Et en soi, moi, ça ne me gêne absolument pas, ça ne me choque pas. Alors, Angel, oui, qui sera progressivement porté par de nombreuses femmes, par certains hommes également, et qui nous parle vraiment de cette parfumerie de fin de siècle. Je vais y revenir par la suite. Parce que, en fait, Angel préfigure 20 ans de parfumerie, de par ses notes gourmandes qui étaient extrêmement originales à l'époque et qui vont peu à peu entrer dans les mœurs, dans l'imaginaire collectif, qui vont se populariser jusqu'à devenir pratiquement omniprésentes dans la parfumerie des années 2000 et 2010. Donc, en tout cas, les années 90, on a le courant gourmand, régressif avec Angel, qui vient nous rassurer, qui nous parle de l'enfance. On est dans les années 90, on est à un tournant, ce que l'on pense être un tournant de l'humanité, la fin d'un siècle, la fin d'un millénaire. Un nouveau monde s'ouvre avec cet an 2000 tellement fantasmé. Il y a dans la population ce désir de se recentrer vers soi, ses émotions, son enfance. D'autre part, nous avons la vague qui nous vient des États-Unis, des parfums dits aquatiques. Nous avons en France l'Odyssée, nous aurons Acqua di Gio, Sic Ewan également, qui joue aussi sur des notes aquatiques. Ce sont des best-sellers des années 90, des parfums minimalistes dans des flacons très épurés et qui nous racontent aussi l'histoire d'une société qui souhaite se purifier des miasmes du monde moderne, une société traumatisée par la pandémie de sida hein, qui se généralise dans le monde entier, qui touche toutes les couches de la société, qui nous parle aussi d'un esprit, voilà, la tendance à l'époque du yoga, le New Age, le zen, voilà, la pureté, l'évasion, la mer. Nous avons également une tendance d'exotisme, le goût de l'ailleurs. C'est l'époque aussi de la France black blanc beurre. La parfumerie se tourne vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Amérique du Sud, l'exotisme avec des couleurs chatoyantes. Je pense à un parfum merveilleux qui s'appelle Kenzo Jungle. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. C'est un très très grand parfum qui reflète tout à fait cet esprit d'exotisme de l'époque. Et également des parfums floraux, poudrés, très doux, qui vont parler d'une féminité radieuse, lumineuse, une femme qui s'est accomplie professionnellement et qui maintenant souhaite penser à elle, s'épanouir émotionnellement. Et Trésor de Lancôme, qui sort en 1990, est un parfum qui reflète cette nouvelle vision de la femme. Avez-vous pour certaines... Porter Trésor. Oui, au fond un peu. Oui. Trésor, c'est cette rose abricotée, poudrée, cosmétique, qui parle d'une féminité assez pudique, pas véritablement sexuelle, c'est quelque chose de très maternel. C'est un parfum aujourd'hui, lors de mes conférences, lorsque je le fais sentir, on me dit c'est un parfum de maman. Voilà. Donc un très joli parfum que je vous invite également à redécouvrir en parfumerie, Trésor de Lancôme. En autre parfum, vous allez le sentir, par contre. Au début des années 90, la parfumerie a également considérablement évolué. C'est une industrie majeure qui s'est fortement démocratisée. Les lancements deviennent de plus en plus internationaux. Les budgets marketing explosent à l'époque. Il y a aussi un effet de concentration avec le rachat de nombreuses marques de prêt-à-porter, de couture, de parfums. Donc une concentration au sein de grands groupes comme LVMH, PPR, qui est aujourd'hui Kering. Donc des marques qui deviennent cotées en bourse, des lancements internationaux, des visions assez ambitieuses, court-termistes en termes de rendement. Il faut toucher le plus de femmes possible. Il faut séduire les femmes du monde entier, ce qui est quand même très compliqué, car d'une culture à l'autre, les perceptions et les goûts olfactifs varient considérablement. Ce qui explique en partie la perte, en majorité, de la prise de risque olfactive. On est sur des parfums de plus en plus marketés, commerciaux, lisses, qui sont censés plaire à peu près tout le monde. Le nombre de lancements va se multiplier. On en est, je crois, oui, plus de 2000 par an aujourd'hui, avec des parfums un peu jetables, interchangeables, qui disparaissent avec une durée de vie de plus en plus courte. Également la mode des parfums régressifs, gustatifs chez les femmes, des floraux qui tirent également vers les odeurs de gel douche, de shampoing, et chez les hommes, une virilité totalement exacerbée avec un rapprochement de l'univers des déodorants, également dans la parfumerie grand public. Parallèlement à cette évolution de la parfumerie, un nouveau mouvement, enfin un mouvement qui en fait n'est pas nouveau, qui existe depuis les années 60-70, mais qui va émerger dans les années 90 et exploser dans les années 2000, c'est celui de la parfumerie alternative, dite aussi parfumerie de niche. On pense à des marques comme Serge Lutens, Annick Goutal, Patricia, les parfums de Nicolai, l'artisan parfumeur, Frédéric Mal. Et toutes ces marques se créent finalement en réponse à cette surabondance de lancement, à cet aspect très marketé, et veulent remettre le parfum au centre du propos et du sujet, avec l'emploi de belles matières, souvent pas de publicité, pas de discours marketing, les parfums ne sont pas vraiment genrés. Si vous allez chez Frédéric Mal, on vous dit, et que vous aimez un parfum et que vous demandez c'est pour homme ou pour femme, on ne vous répondra pas. On vous dira c'est comme vous le souhaitez, c'est pour vous. Et donc cette parfumerie de niche qui émerge va peu à peu gratter des parts de marché et va commencer à faire peur aux très grandes marques, ce qui explique ces dernières années le rachat de certaines de ces marques de niche par des grands groupes, comme L'Oréal, comme Estée Lauder, qui vont racheter comme ça, se faire un petit portefeuille de parfumerie, de marques de parfums de niche. Le parfum que vous sentez est révélateur de cette parfumerie alternative. Le connaissez-vous ? Non. Non plus. J'ai entendu Frédéric Malle ? Oui, c'est Portrait of a Lady. Ceux qui ont dit une rose, je comprends également tout à fait. Portrait of a Lady, créé par Dominique Ropion en 2010. Parfum confidentiel qui va devenir finalement une sorte de best-seller que l'on va sentir. Gardez bien en tête ce parfum, vous risquez de le sentir fréquemment dans Paris. Et en tout cas, je peux vous dire que si une personne le porte, vous le sentirez forcément. Il m'est arrivé, petite anecdote, une fois, je me rendais à une soirée avec des amis et j'arrive, je sens ce parfum dans la rue. J'arrive, et vraiment je le sens de la sortie du métro et je fais tout le chemin jusqu'au boulevard Saint-Germain où je devais me rendre et je sens ce parfum, mais c'est pas possible. Je rentre, donc je rentre dans le hall d'entrée, ça sent encore plus fort, j'arrive dans l'appartement, je retrouve le parfum et je retrouve un de mes amis qui le portait et j'avais réussi à le suivre à la trace sur à peu près 200 mètres. Alors ayez la main légère, hein, s'il vous plaît. Portrait of a Lady est très intéressant. C'est une rose boisée orientale qui fait un pont entre Orient et Occident. Je vous rappelle, ou je vais vous expliquer, qu'aujourd'hui, la clientèle moyenne orientale est extrêmement, est une clientèle importante pour la parfumerie française. C'est une clientèle à fort pouvoir d'achat, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de goûts et des goûts très particuliers. Alors évidemment, vous avez toutes et tous, j'imagine, entendu parler du bois de Oud, hein, que toutes les marques depuis 15 ans nous sortent, avec plus ou moins de bonheur. Chez Nicolai ? Lequel ? Ah, dommage. Chez Memo ? Il y en a chez Tom Ford. Et connaissez-vous The Night chez Frédéric Malle ? À celui-ci ? D'accord. Putain des palaces, pour moi, est un grand floral violette, mais pourquoi pas ? Alors, vous voyez, la parfumerie de niche, aujourd'hui, joue énormément sur la surdose de matière. Voilà. On a souvent des parfums très texturés, avec des matières un peu brutales. Il faut dire que la clientèle actuelle aime savoir ce qu'il y a dans son parfum. Alors évidemment, on ne va pas lui révéler la composition, mais en tout cas, effectivement, elle aime sentir qu'il y a de la rose. Elle aime, si on lui dit qu'il y a du jasmin, elle souhaite vraiment sentir le jasmin, la tubéreuse, le bois de oud, le vétiver, le santal, le cèdre, et j'en passe. Donc, voilà, on est souvent sur une parfumerie aujourd'hui très matière. Connaissez-vous les premiers parfums de Serge Lutens qui jouaient beaucoup sur les noms des matières ? Tubéreuse criminelle, ambre sultan, etc. Alors, féminité du bois, pour le coup, c'est un peu plus abstrait dans le nom. Et de nombreuses marques de niche ont par la suite repris ces codes de matière. Vous vous rendez aujourd'hui, par exemple, au Printemps Haussmann, au Bon Marché, aux Galeries Lafayette, sur les points de vente de nombreuses marques, même de marques plus importantes comme Dior ou Hermès. Vous aurez de nombreux parfums avec les noms des matières. Donc on est moins sur des noms abstraits. Il faut être beaucoup plus direct, aller droit au but, et qu'il y ait une vraie compréhension, une adéquation entre le nom et l'olfactif. C'est très important aujourd'hui en termes de vente, pour bien vendre un parfum. Que pensez-vous de Portrait of a Lady ? Super. Oui, c'est un parfum que je trouve c'est un très très beau parfum, qui est complexe, qui est sophistiqué, qui est rayonnant, qui est lumineux, qui est sombre à la fois. Pardon ? De Paris-Yves Saint-Laurent ? Alors, par la rose, peut-être, mais le traitement est radicalement différent. Paris d'Yves Saint-Laurent, créé en 83, est un parfum, est un grand bouquet floral avec une rose pimpante, poudrée, avec beaucoup de violette. Là, on est sur quelque chose quand même de beaucoup plus affirmé, racé, puissant. Femme fatale, oui. Tu es assez d'accord ? Unisexe ? Ah, alors ceux qui ont dit non, vous le verrez plus porté par un homme ou par une femme ? Êtes-vous influencé par le non ? Pardon, s'il vous plaît, parlez plus fort. D'accord. La rose, c'est magnifique. Au Moyen-Orient, la rose est tout à fait portée par les hommes. Après, voilà, nous avons nos propres codes culturels où la rose, en France, est associée depuis de nombreuses décennies à la féminité. Je pense qu'il est bon aussi de faire abstraction de certains référents culturels, de juste laisser parler ses propres ressentis, ses émotions, et pourquoi pas essayer aussi de s'en détacher et d'essayer de nouvelles expériences olfactives. Pour ma part, je porte beaucoup de parfums féminins. À peu près 90% des parfums que je porte sont dits féminins. On n'a jamais dit que je sentais la femme. Jamais. Et pourtant, j'en ai porté des carabinés hein, dans le genre, mais jamais. Donc je pense qu'on peut se réinventer, s'approprier un parfum, ne pas avoir peur et vraiment laisser parler son plaisir, ses émotions, ses souvenirs et se sentir tout simplement bien avec son parfum. Ça me semble être l'essentiel aujourd'hui. Pour homme, d'accord. Voilà, donc je pense que ça montre bien, en fait, au niveau les points de vue sont assez différents, mais que c'est un parfum qui peut brouiller les pistes, en tout cas. Ça, c'est intéressant. Et c'est un parfum que l'on sent, voilà, comme je le disais, de plus en plus souvent aujourd'hui, alors qu'il était totalement confidentiel hein, lors de sa sortie, et qui aujourd'hui voilà, se vend bien, devient connu. Je pense à un autre parfum également, Bois d'Argent, de Christian Dior. Ah oui, alors ça, je sais qu'il sent trop bon. Alors, c'est un parfum qui plaît énormément, qui est très efficace, qui avait été lancé en 2004 dans une collection très confidentielle que l'on ne trouvait qu'en boutique Dior Homme à l'époque. C'était un parfum qui a été voulu par Eddie Slimane, qui était couturier de la maison, enfin, de la partie prêt-à-porter Homme. Et petit à petit, grâce au bouche à oreille, c'est un parfum qui a été qui s'est vendu comme des petits pains que l'on sent aujourd'hui vraiment de partout. Effectivement. D'accord. La rose cyprée, peut-être. Je comprends. Voilà. Ce que je vous invite à faire, c'est déjà, si vous pouvez garder ces touches olfactives, les sentir dans un environnement peut-être plus neutre, chez vous, demain, à tête reposée. Et voilà, de prendre le temps de les ressentir, d'écouter ce qu'ils vous racontent, ce qu'ils ont à vous dire, ce que vous ressentez, et d'aller aussi les redécouvrir, car la plupart de ces parfums, certains anciens, sont aujourd'hui méconnus et je pense méritent d'être découverts, redécouverts, portés. Il faut qu'ils vivent également à travers nous, à travers vous. Ils sont les marqueurs de leur temps, de leur époque. Ils nous parlent de périodes révolues, mais ils sont pour certains, je pense, intemporels et méritent d'être voilà, portés aujourd'hui au XXIe siècle. Eh bien, je vous remercie. Merci. On a 5 minutes pour des questions. On va peut-être faire passer le micro si... Alors, les personnes qui ont des questions, levez bien haut la main. On va vous amener le micro.
Bonjour.
Bonjour.
Oui. Bonjour. Merci beaucoup d'abord. Je voulais vous demander, bon, c'est peut-être une question stupide, mais c'est quoi la différence entre l'eau de parfum, l'extrait et l'eau de toilette?
D'accord.
Et tout ça.
Alors, c'est assez compliqué, malheureusement, aujourd'hui. Traditionnellement, c'est une question de concentration. Vous avez le concentré de parfum, donc les matières premières mélangées, qui sont ensuite diluées, notamment dans l'alcool. Puis là, voilà, une autre colonne, c'est la concentration, c'est là où il y a le moins de concentré. Ensuite, vous avez l'eau de toilette, donc avec une tenue plutôt effectivement légère pour se parfumer 2-3 heures dans la journée, l'eau de parfum, qui va être plus intense, et l'extrait de parfum, la version donc la plus, comment dire, là vraiment je généralise parce que c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, l'extrait de parfum est la version la plus noble, la plus concentrée en matière première, et souvent en matière première naturelle, ou du moins coûteuse, c'est la version la plus riche. En revanche, aujourd'hui, tout a un peu changé. Il y a encore 40 ans, si vous achetiez une eau de toilette, alors on appelait aussi un parfum de toilette à l'époque, c'est l'ancienne appellation des eaux de parfum, ou un extrait, vous aviez de vraies différences de concentration, mais un rendu olfactif relativement identique. Aujourd'hui, tout ça a changé avec les nouveaux lancements. Par exemple, une nouvelle marque lance l'eau de parfum, et puis un an plus tard va lancer l'eau de toilette, mais finalement, ce ne sera pas une différence de concentration, ce sont des formules et des rendus olfactifs totalement différents. Donc tout ça est aujourd'hui bien complexe. Je vous donne juste un peu l'idée originelle, je dirais. Voilà. D'autres questions ? Oui ?
Oui, c'est juste une question d'organisation. La prochaine conférence, ça se passe comment ? Et où ?
Je ne sais pas encore, nous verrons ça.
Mais l'information, on peut le prendre où pour...
Les informations, déjà sur le site éventuellement de la Bibliothèque publique d'information du Centre Pompidou. Pour ma part, les conférences que j'organise régulièrement, vous les trouvez sur le site auparfum.com, rubrique événements. Donc auparfum, c'est A-U-P-A-R-F-U-M, auparfum.com. Voilà. Sur le site du musée Fragonard également. Enfin, mais vraiment, auparfum.com, vous trouverez... Si, ensuite par Facebook. Je vous invite à suivre, nous suivre via la revue Né, la revue olfactive, ou auparfum.com, via Facebook.
J'en profite pour rajouter que cette conférence de ce soir a été filmée, que vous pourrez la retrouver prochainement sur la web TV de la BPI, si vous souhaitez la visualiser à nouveau ou la transmettre à votre entourage. Nous avions également accueilli en novembre dernier une rencontre Odorama autour de la revue Né, la revue olfactive, que vous pouvez également retrouver en ligne sur le site de la BB. D'autres questions ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais savoir ce que vous pensiez de La vie est belle. Parce que j'avais remarqué que dans les 111 Joker, parfums à sentir... On n'en parlait pas, alors que je me dis que c'est peut-être un poison de demain, que dans 20 ans, tout le monde dira que c'était insupportable sur le moment, mais en fait, ça a marqué son époque.
Eh bien, je pense que vous avez complètement raison. À titre personnel, je ne supporte pas ce parfum. Je le sens au moins 5 fois par jour dans les transports en commun, dans les rues. Mais c'est un parfum qui est un succès absolument incroyable. Il y a une cohérence, une intelligence. Voilà, c'est un concept qui a été mûrement réfléchi, pensé, une adéquation entre le nom, le parfum extrêmement gourmand, donc assez régressif, un très beau flacon, massif. C'est un parfum, mais voilà, extrêmement tenace, très gourmand, extrêmement puissant
et
techniquement exceptionnel. Après, en termes d'esthétique, voilà, c'est autre chose. Mais c'est potentiellement un futur classique, tout à fait.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, merci beaucoup. On a eu un peu les 100 dernières années de parfum. Et pour vous, là, maintenant, j'aimerais savoir vers quoi on se dirige dans les années à venir. Quelles sont les tendances ?
Très, très compliqué. On a une vision à peu près à 6 mois. Au-delà, c'est très complexe, puisque c'est un marché qui ne cesse de se complexifier, qui est en pleine évolution, qui se modifie. On a de plus en plus de marques de niche qui se lancent. Le marché, en fait, est... aujourd'hui presque saturé. Tout le monde n'a pas chez lui 50, 100, 200, 300 parfums. La plupart des gens en ont 1, 2, 3. Donc on a de plus en plus de lancements, une durée de vie des parfums de plus en plus courte pour la distribution sélective, c'est-à-dire pour les parfums distribués dans les parfumeries, les chaînes que vous connaissez notamment. Et un marché de niche qui se développe considérablement, qui prend chaque année des parts de marché, mais en même temps qui devient lui-même saturé parce que les marques sont de plus en plus nombreuses, des petites marques avec des points de vente limités. Et puis, on retrouve aussi... Alors, il y a évidemment de très, très, très belles choses encore, mais on assiste aussi à des marques parfois improbable, puis des parfums finalement qui peinent à trouver, à évoluer vers de nouveaux codes. On a encore aujourd'hui chacun sa tubéreuse, son bois de santal, son interprétation occidentale du oud, etc., etc. Donc c'est une parfumerie aujourd'hui qui tourne en rond, qui se cherche, et j'espère que nous assisterons à de vraies nouveautés. Il y a encore évidemment, heureusement, des marques qui innovent, hein, qui osent aller au-delà des tendances et des modes. En parfumerie grand public également, est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une saturation du gourmand, du gustatif? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, on observe au sein de certaines marques des envies d'aller sur d'autres territoires olfactifs, revenir vers des floraux, vers des néo-chypres, vers des notes boisées, parfois épicées. Et on ne peut qu'encourager ces marques à nous emmener ailleurs et à sortir d'un marché qui, aujourd'hui, peine un peu à trouver de nouvelles... à oser, finalement. Parce qu'il y a aussi cette question du jeunisme où on s'adresse aujourd'hui à des femmes toujours plus jeunes. Vous le voyez dans les campagnes publicitaires. Il y a encore 20 ans, on n'hésitait pas à prendre pour égérie des femmes de 30-35 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de la vingtaine, voire parfois 18 ans. Mais tout le monde ne peut pas sentir la barbe à papa et la gamine. C'est pas possible. Il en faut aussi pour toutes les femmes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, mais qu'il faut avant tout prendre des risques. Et c'est aussi une histoire d'éducation olfactive. Quels seront les référents olfactifs de demain? Par exemple, avec une jeunesse aujourd'hui qui ne connaît la parfumerie qu'à travers des créations extrêmement gustatives, sucrées, gourmandes. Ces parfums seront les référents de demain. Vous voyez, donc c'est aussi une problématique. Oui, encore deux questions, et après nous allons devoir... Alors monsieur... Ah, je ne vais pas me donner mon avis sur tous les parfums, ça je ne peux pas. Mais c'est un grand lancement, c'est un grand floral, justement, qui a le mérite de sortir de cette vague de parfums très gourmands et gustatifs, avec techniquement impeccable et beaucoup de luminosité. Certainement, en tout cas, notre tolérance... Nos référents et notre tolérance. Si je vous ramenais au 19e siècle, je pense que vous pourriez mourir dans la seconde. Les odeurs seraient insupportables. Nous ne pouvons pas imaginer la puanteur, l'odeur. Enfin, je parle du 19e siècle, si on remonte encore plus loin, c'est encore pire. Mais donc, effectivement, il y a des vecteurs culturels comme ça, les normes d'hygiène qui évoluent. Dans les années 80, moi, j'ai des amis qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, qui sont enseignants, qui me parlent de l'odeur des salles de cours des élèves dans les années 80, c'était costaud encore à l'époque. Hein. Et tout ça a évolué, les normes d'hygiène évoluent. Donc notre perception du propre et du sale, par exemple, évolue. La perception aussi de certaines odeurs que l'on juge modernes ou désuètes. Vous avez bien vu avec le muguet, si je vous ai fait sentir de l'œillet, de la violette, je pense que beaucoup d'entre vous m'auraient dit « c'est daté, ça me rappelle mamie », etc. Voilà, donc toutes ces perceptions évoluent en permanence, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est possible, parce qu'on est plus ou moins... Alors après, je ne sais pas, parce que là, c'est en dehors de mon domaine de compétences, mais il y a des choses auxquelles nous sommes plus ou moins sensibles. Après, je ne sais pas effectivement comment tout ça fonctionne concrètement, aujourd'hui, cette évolution du sens olfactif. Mais ce qui est acceptable aujourd'hui pourra être inacceptable demain. Il y a des odeurs qu'on va aussi hyper-osmiser, c'est-à-dire qu'on va sentir énormément d'autres qu'on ne sent plus, parce que l'on est habitué, voyez, etc. Tout ça dépend également des époques, mais aussi des cultures, des pays, de l'âge, du milieu, et peut-être social aussi, dans lequel on évolue, économique. Les facteurs sont extrêmement sont multiples. Oui. Alors, madame aussi, qui avait... Deux. Alors, c'est un produit d'appel dans l'univers du luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même le moins cher. Vous payez un flacon 100 euros, vous achetez un manteau de fourrure, on est plus autour de 30, 40, 50 000 euros. Un sac, c'est au minimum 2, 3, 4, 5, 6 000. C'est quand même quelque chose qui s'est fortement démocratisé au cours des dernières décennies, qui cible aujourd'hui également les classes moyennes. À l'origine, oui. Oui. Alors, question très intéressante. C'est avec l'émergence d'une classe moyenne employée, notamment dans les années pendant les Trente Glorieuses en France, à partir de la fin des années 50. Là, on a une émergence d'une classe moyenne avec un certain pouvoir d'achat. Et on se rend compte aussi, voilà, avec, en plus avec les événements ceux de 68, voilà, il y a toute une évolution des mœurs. On cible de moins en moins cette grande bourgeoisie. Le parfum se démocratise, se désembourgeoise donc. Et après, lorsque les impératifs économiques deviennent de plus en plus importants, il y a vocation à élargir la clientèle en termes de pouvoir d'achat, mais également voilà, toucher des femmes et des hommes de différentes cultures. Voilà un peu l'histoire en 10 secondes de la démocratisation du parfum ces dernières décennies. C'est un peu rapide.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Les ventes de parfums ont baissé en 2016-2017.
Oui.
Est-ce que vous avez une explication? Parce que c'est très rare.
J'ai une hypothèse, ouais. Effectivement. L'augmentation constante des prix. Voilà. Il y a un moment, cette gentille classe moyenne que l'on souhaite cibler, bien à un moment, c'est plus possible. Donc il y a un décrochage. Mmh. Voilà. Ouais. C'est mon interprétation. Dernière question, mademoiselle.
Attendez, je vous passe le micro. Et ce sera la dernière question.
C'est une question un petit peu technique. Comment une marque comme Louis Vuitton, qui vient de sortir une gamme de parfums, peut sortir 24 parfums d'un coup, ou une marque comme Dior, qui a beaucoup agrandi sa collection privée, un parfum par mois sorti pendant à peu près un an. Comment ils font? Par quel mécanisme ils passent? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors non, parce qu'il y a beaucoup de choses secrètes. Ce sont des marques que je connais bien, donc je ne révélerai pas, non. Mais alors déjà, Louis Vuitton, c'est 7 parfums et non pas 24.
Non, d'accord.
Qui ont été quand même pensés durant de nombreuses années, qui ont été créés par Jacques Cavalier-Beltruc, qui est un très grand maître parfumeur. Donc non, c'est quand même une marque, pour le coup, qui a vraiment, vraiment pris son temps. Après, oui, des marques comme Dior, Guerlain lancent de nombreux parfums, mais voilà, ils ont des grands parfumeurs, les équipes, enfin tout est, comment dire, la machine est tout à fait rodée, et donc permet aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il faut aujourd'hui de la nouveauté pour séduire, pour continuer à capter une attention permanente de la clientèle. Après, je pourrais pas vous révéler les processus internes de, voilà. J'en suis désolé.
Un grand merci, Johan, pour cette conférence.
Merci. Merci beaucoup.